Salut Luc.
Salut.
Le PM, en présentant le projet de loi, le flanqué de M. Jeanlin Barrette, a dit que c'est un grand jour pour le Québec. Es-tu d'accord?
Non, c'est un jour intéressant, mais on n'est pas dans l'histoire, là. Il s'est approprié les paroles de René Lévesque. Il s'est lui-même placé comme le successeur de René Lévesque en disant le premier parti nationaliste qui met en place des mesures, qui restaure la loi 101. Il y a un renforcement de la loi 101, puis c'est un bel effort parce que ça va dans plusieurs directions et il y a plusieurs mesures phares, puis on va en parler de ces mesures phares-là, mais c'est ni historique ni costaud dans le sens où c'est un renforcement, c'est pas une mise à niveau à la hauteur des problèmes qu'on rencontre. À long terme, on pourra dire on a bouché des trous, on a fait attention à ce qu'il y a des situations qui s'améliorent, et ça c'est très bien, on voit qu'ils sont allés en profondeur, qu'ils sont allés dans chaque domaine. Mais il y a trois éléments qui menacent le français. Et la question du jour, c'est est-ce que ces trois éléments-là, demain matin, vont être corrigés par la loi qui est mise en place? Les trois éléments, tu l'as dit, c'est le faible taux de transfert linguistique. Le deux, c'est la langue de travail. On se rappelle qu'il y avait 60% des employeurs de Montréal qui demandaient l'anglais comme une exigence de travail. Et 40%, dans 40% des cas, parce que les communications internes l'exigeaient. Et le troisième élément, c'est la langue d'éducation. Or, pour ces trois éléments-là, moi, je pense qu'il n'y a pas d'adéquation entre la profondeur du problème et la superficialité des solutions qui sont proposées.
Yeah. OK. Donc, tu es déçu de ce qui est proposé dans le projet de loi 96. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif?
Oui, il y en a plein de positifs. Premièrement, imposer une épreuve uniforme de français aux étudiants du réseau collégial anglophone, c'est une belle solution. Plutôt que de venir, ça aurait été très, très difficile de mettre des ratios correspondant uniquement à la population anglophone, parce que tu sais qu'il y a une population anglophone d'à peu près 20% à Montréal, mais il y a 50% des étudiants qui étudient dans un cégep anglophone. Alors, on pouvait pas, du jour au lendemain, là, ramener ça à 20%. Alors là, on le fait d'une façon détournée. On dit, ben, tu peux aller au cégep en anglais, mais il va falloir que tu réussisses l'épreuve uniforme de français, par exemple. Et ça, je trouve que c'est à la fois élégant puis performant. L'obligation de respecter le droit d'être servi et informé en français. Donc, une plainte à l'Office québécoise de la langue française. Bon, les plaintes à l'Office québécoise de la langue française, il faut comprendre que Air Canada en reçoit 2-3 camions par année. Hein,
qui sont livrés au commissaire aux langues officielles.
Oui, dans son cas.
Et puis, il n'y arrive à rien.
C'est ça. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les outils juridiques qui vont être mis en place pour que l'OQLF... Parce que là, ce qui est proposé, ce que j'ai entendu dans la parole de M. Jolin Barrette quand tu lui as posé la question, c'est de dire on va leur proposer un processus de francisation, c'est-à-dire des outils pour être capable d'offrir des services en français. J'ai pas l'impression qu'on va fermer la boutique, là. Il y a des processus de francisation qui sont là depuis 25 ans dans des entreprises où ça se passe presque uniquement en anglais. Il y en a qui le prennent avec ferveur, avec mobilisation, et puis qui arrivent à offrir des services en français. Puis il y en a d'autres qui le prennent comme une sorte de punition. Ils s'assurent que le document français existe quelque part, mais le service continue de se faire en anglais, là. Alors, est-ce que ça va changer? Bien, ça reste à être démontré.
J'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer dans le réel, parce que le ministre dit, bon, écoute, oui, il pourrait y avoir là, des sanctions financières, mais comment? Est-ce qu'on va envoyer des enquêteurs? Est-ce qu'on va demander des vidéos?
Oui, c'est le job, oui.
Ça t'insulte probablement autant que moi d'être accueilli en anglais à Montréal. Là. Je dis pas que c'est la norme, mais ça arrive. Mais comment tu sanctionnes ça? Ça, c'est un autre débat. Là.
Tout à fait. Il y a aussi élargir la portée de la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales. Très bon point. Excellent. Il y en a plusieurs. Il y a des banques à Chartres, il y a des entreprises ferroviaires, etc. Oui. Ça, c'est un gros trou dans la loi et il est comblé. Bravo. Et puis aussi de proposer des processus de francisation qui sont typiques de la loi 101 pour les entreprises de 25 à 49 employés. Ça aussi, ça dépend de la mobilisation de l'entreprise. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Ben, on le sait pas. Mais là où on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas été plus loin, parce qu'il y a un consensus comme il n'y en a jamais eu. Hein. Le consensus, moi, je tout de suite, tu sais, quand je suis radical sur les questions, par exemple, d'environnement, etc. Oui. Sur la langue, je le suis beaucoup moins parce que je me dis tout le temps, il faut être faire une adéquation entre les problèmes et les solutions. Et en même temps, il faut le faire dans l'harmonie, dans la paix sociale, parce que beaucoup d'anglophones ont choisi de vivre au Québec et fonctionnent au Québec, puis ce ne sont pas des impérialistes dans chacun des cas cachés en eux qui veulent absolument imposer leur langue. Il y a des efforts qui se font. Alors, je pense qu'il faut reconnaître ces efforts-là. Et le bonjour, aïe, ben, tu sais, il faut voir, là. Tu sais, c'est pas toujours fait avec mauvaise foi, avec malice. Mais il y a des choses, par contre, où tu te dis, ben, pourquoi on n'a pas insisté un peu plus? Je pense, par exemple, aux municipalités anglophones. On a dit, s'il y a moins de 50% de la population qui parle anglais, dorénavant, on pourrait retirer la charte bilingue, la possibilité d'avoir une municipalité bilingue. Quand on est à 12%, pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que là, tout ce que tu vas devoir faire, quand tu es en bas de 50%, tu vas recevoir un rapport et puis tu vas pouvoir, en 120 jours, envoyer une résolution du conseil municipal pour dire que tu te soustrais à la loi. Ça me semble faible. Ça me semble faible. Je vois pas pourquoi on n'est pas allé plus loin. Sur la question des cégeps, aussi, c'est bien d'avoir un test uniforme de français, mais quand on a un tel écart entre le nombre d'anglophones véritables et le nombre d'anglophones qui se présentent aux portes, de personnes qui se présentent aux portes, souvent des francophones, des anglophones, on aurait pu aller plus loin. Je comprends pas pourquoi on l'a pas fait. Puis sur l'immigration, la question de l'accueil en français, alors on dit qu'on va donner des services pour franciser, pour aider à la francisation des immigrants. Il y a plein de pays démocratique et progressiste. Là, je pense à l'Allemagne, Berlin en particulier, où on exige la maîtrise de la langue pour les immigrants, au moins dans la première année, c'est-à-dire avant d'arriver ou dans la première année. On aurait pu faire des pas dans cette direction-là. Pourquoi on ne les a pas fait? Il y a un consensus, il y a une crise d'abord, puis il y a un consensus, et on a choisi de ne pas pousser plus loin.
On aura l'occasion d'en reparler. Merci, Luc.
Merci à toi.